Le journal avec Liliane Guenin.
Bonjour. Les forts orages de hier soir ont provoqué des inondations dans tout l'arc jurassien. À Orvin, une cinquantaine de maisons ont été victimes de la montée des eaux. Et dans le canton de Neuchâtel, c'est le village de Cressier qui a été particulièrement touché. Moutier se prépare pour son départ dans le canton du Jura et le conseil municipal veut accélérer le rythme. Pour l'exécutif prévotois, le 1er janvier 2026, c'est trop loin. En sport, l'adversaire de la Suisse en 8e de finale de l'Euro de football n'est pas encore connu, mais ce sera un gros morceau. La Nati a 99% de chances de se retrouver face à la France, l'Allemagne ou le Portugal. Vous entendrez que pour Brelembolo, peu importe l'adversaire, les Suisses savent ce qu'ils ont à faire. Du côté de la météo, le temps va se gâter. Quelques averses et orages risquent d'éclater dès le début de l'après-midi sur l'arc jurassien, avant de déborder par endroits sur le Seeland d'ici la fin de la journée. Attention, ces orages pourraient être forts et accompagnés de grêles localement. Une cinquantaine de maisons victimes de la montée des eaux de l'Orvine, hier en début de soirée à Orvin. Vers 20h50, le cours d'eau est sorti de son lit. Les dégâts ne sont que matériels, mais conséquents tout de même. Le récit du vice-maire Sylvain Grosjean.
Alors on a eu un orage exceptionnel, qu'à ma connaissance, on n'a jamais connu ça. C'est en quelques secondes, c'est des milliers de mètres cubes d'eau qui sont tombés en trombe. Ça a bouché des ruisseaux, ça a débordé par les grilles d'évacuation. Et puis ensuite, du fait que le village d'Orvin est spécial, on a souvent les maisons qui sont en contrebas de la route principale. L'eau, voilà, elle s'est infiltrée dans les sous-sols.
Parmi les personnes touchées, il y a Byron Lirti. Le sous-sol de sa maison fait office d'écurie pour deux chevaux de course. Quand les eaux sont montées, les animaux étaient dans leur box. On écoute Byron Lirti.
Dès que le ruisseau a commencé à déborder, on a les sauts de loup qui ont cassé de l'autre côté. Et justement, l'eau est montée tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de crocher un licol ou bien de prendre une bride pour pouvoir les sortir. Après, la force de l'eau était telle qu'on n'a même pas réussi à ouvrir les portes. Donc on a ouvert on a un puits où on passe le foin et puis la paille depuis la grange en haut. Et puis depuis là, on était dans le box et puis on leur tenait la tête en haut justement pour qu'ils puissent respirer parce qu'ils étaient à moitié en train de nager dans le box.
Vous avez quand même réussi finalement à les sortir.
Alors oui, grâce au corps des sapeurs-pompiers d'OPRV, Evillard-Macolin et Bienne, qui ont été, on peut dire, héroïques, on peut dire ça comme ça. On a réussi à sortir ces deux chevaux qui ont dû nager littéralement sous l'eau. Et actuellement, ils sont un peu tuméfiés, un peu griffés. Ils ont des blessures un peu par-ci, par-là. Ils sont en repos, mais ils sont sauvés, ils sont sains, ils sont saufs.
Mais si la porte était bloquée par l'eau, vous les avez sortis par où, ces chevaux?
La porte, ça l'a ouverte avec la pression d'eau, en fait. Elle a littéralement éclaté.
Des propos recueillis par Claire Viget. Entre pompiers et bénévoles, une soixantaine de personnes sont intervenues hier soir pour prêter main forte aux villageois. Ce matin, elles leur étaient au nettoyage et au constat. Des représentants de l'assurance immobilière Berne étaient déjà sur place. Autre village particulièrement touché par les inondations, Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Un torrent a envahi les ruelles, emportant tout sur son passage et ne laissant que la désolation. Parmi les habitants du village, nous avons rencontré ce matin un villageois dévasté par la situation. José Ferreira, le patron cuisinier de la Croix-Blanche depuis 1988, a vu son restaurant traversé de part en part. Écoutez son témoignage.
C'est la première fois, l'eau est sortie par les fenêtres. Regardez, elle est partie par ici. Ça se voit bien l'eau, à l'auteur où elle était. Regardez l'eau. Imaginez bien que tous mes machins, tout est foutu, madame. Tout est foutu. On ne peut rien dire d'autre. Regardez-moi, tout mon stock de cuisine, tout le bordel, tout est foutu, madame. L'entrée, madame, tout est entré. L'eau est sortie par les fenêtres, madame. Les tables, on ne les voyait pas. Moi, j'étais en haut. Et je voyais, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et puis voilà, regardez mon parking là, tout mon machin, regardez tout le monde, les tables, tout est. Voilà. C'est pour ça que tout le monde me dit ça va, il faut dire oui, bien sûr, il faut dire oui, mais voilà.
3 mois après le vote du 28 mars, le conseil municipal de Moutier veut donner un coup de fouet au processus de transfert dans le canton du Jura. Il l'a répété ce matin à l'occasion de sa première sortie devant la presse depuis le scrutin. La date du 1er janvier 2026 est lointaine, trop lointaine. Le conseiller municipal et président de la délégation aux affaires jurassiennes, Valentin Zuber.
C'est vrai qu'il y a un ressenti dans la population de Moutier que ça prendra encore du temps. Et nous estimons qu'il est possible que si tout se passe bien, les choses puissent peut-être se faire un petit peu plus vite que prévu. Donc ce que nous avions l'intention de dire, ce que le conseil municipal souhaitait dire, c'est que peut-être en donnant maintenant du rythme, en faisant en sorte, en contribuant à mettre les ressources nécessaires pour que toutes les différentes étapes se passent au mieux, peut-être qu'on arrivera à raccourcir ce calendrier, et ça c'est l'objectif.
Alors ça a été dit, hein, c'est un travail conséquent, un travail de fond. Concrètement, où est-ce qu'on peut gagner du temps ?
Je crois qu'il y a un calendrier institutionnel. Hein. En gros, le concordat, sa signature, sa soumission au canton, sa soumission aux chambres fédérales, là, on n'arrive pas à gagner du temps. Il y a 2 ans et demi qui sont incompressibles. Par contre, autour de ça, il y a tous les aspects concrets du transfert de Moutier, c'est-à-dire de notre côté, du côté de la commune de Moutier, l'adaptation de l'administration à la nouvelle réalité, et puis du côté du canton du Jura, finalement, offrir les prestations à la population de Moutier qui doit arriver, et c'est-à-dire s'adapter à cette population. Et là, c'est énormément d'échanges entre administrations, c'est des dossiers à préparer, et des décisions évidemment à prendre à l'échelon des services ou des autorités. Et puis là on peut donner un rythme différent et puis faire en sorte que ça aille plus vite. Et donc on peut gagner du temps, mais c'est sûr qu'il y a quand même une période incompressible.
Valentin Zoubert au micro d'Olivier Zanot. C'est donc en préparant au mieux le terrain et en responsabilisant les employés de l'administration que la ville de Moutier entend accélérer le processus. Les autorités veulent impliquer toutes les volontés, y compris dans le camp des déçus. Elles s'abstiennent toutefois de proposer une nouvelle date plus ambitieuse pour le transfert effectif. Les élèves motivés pour organiser la cérémonie de remise des diplômes. Les deuxièmes années de l'École supérieure de commerce de Bienne se chargent de tout mettre en place pour les troisièmes depuis 8 ans. Après l'annulation de l'événement en 2020, l'incertitude régnait pour cette édition. Mais les étudiants n'ont pas manqué de motivation et la remise se déroulera ce soir en 2 temps. Marie-Jeanne Carnal, enseignante à l'école de commerce, supervise ce projet depuis le début. C'est elle qui a eu l'idée de cette cérémonie organisée par les élèves et pour les élèves. On écoute Marie-Jeanne Carnal.
Ils se sont incroyablement engagés. Je dois dire, depuis toutes ces années que je le fais avec des équipes toujours différentes, chaque année, je vois cette motivation des élèves. Ça doit marcher, hein. C'est ce qu'ils se rendent compte. Il y a 100 de personnes qui sont là, hein. Donc, il ne faut pas que ça se casse la figure. Et d'habitude, quand il n'y a pas la problématique sanitaire, il y a 300 personnes qui sont là, hein. Et on va jusqu'à organiser l'apéritif, normalement, ce qu'on n'a pas cette année. Et c'est eux qui vont servir les boissons, c'est eux qui font les sommeliers. Tout est vraiment pris en charge par les élèves, et puis cette année, on a dû un peu écourter, faire un peu autrement, mais ça sera bien quand même.
Il a fallu repenser le déroulement de la cérémonie et s'adapter aux nombreuses restrictions sanitaires. Les explications de Fabien Hellig, directeur de l'École supérieure de commerce.
Oui, il y en a beaucoup, et là, pour les élèves, ça a été très difficile, ils ont dû contourner les différents obstacles. Il y a le port du masque, il y a la traçabilité des contacts. Tout ça doit être mis en place. Les personnes qui viennent, on doit pouvoir assurer un suivi. Il y a les distances, il y a le nombre de personnes dans l'aula. Ça a été problématique puisque du coup, on ne peut pas inviter tous les amis qu'on a envie. C'est restreint à un parent ou pour une petite classe, eux, ils ont le droit d'avoir 2 parents. Mais du coup, c'est pas mal de limitations à faire. On n'invite pas tout le monde comme on les invite d'habitude. Il y a différentes choses qui ont dû être un petit peu adaptées ici et là. Pour nous, c'était important de pouvoir organiser cette fête. Pour les élèves, c'est une fête qui est importante pour eux. C'est la fin de leur première formation. Ils se retrouvent avec un CFC, avec une maturité. Il y a de quoi fêter. Et du coup, on est content de pouvoir le faire.
Pas d'intervenants externes, pas de groupe de musique. Les animations sont également faites par les élèves. Il n'y aura pas non plus d'apéro à la fin, mais les diplômés recevront un panier garni à la place. Pour Guillaume Cravero Duarte et Eliane Luciana Paolo, les 2 chefs des opérations, organiser la cérémonie a été un vrai challenge, mais une bonne formation pratique dans leur cursus scolaire. On les écoute.
C'est une belle expérience où il faut souvent trouver des solutions rapides pour contourner justement les problèmes. Par exemple ici, c'était les restrictions du Covid. Sinon, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Le fait de devoir recontacter des anciens élèves qui ne vont pas forcément répondre tout de suite ou qui ne vont même pas répondre parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut être patient, il faut savoir un peu travailler en autonomie aussi, prendre des initiatives, proposer des nouvelles idées.
Et toi, qu'est-ce que t'en as retiré de cette expérience ?
C'était une belle expérience. Il faut quand même dire que c'est quand même stressant, vu que des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, genre qui ne jouent pas. Ouais, on est toujours un peu dans le stress. Mais après, à la fin, c'est bien allé, et puis on a bien pu faire les choses, et puis ouais, on se réjouit.
Un dossier réalisé par Clotilde Loup. La cérémonie se fera en 2 fois ce soir. La première sera à 17h et la seconde à 19h à l'aula du gymnase de Bienne. Elle sera diffusée en direct sur YouTube. Entre l'utilisation de la carte de crédit ou de débit et l'argent liquide, le cœur des Suisses balance. Selon l'étude de la Banque nationale suisse présentée ce matin à Berne, il balance toujours plus fort vers les moyens de paiement numériques. En 3 ans, de 2017 à 2020, les paiements par carte avec code ou sans contact ont progressé de 27 à 46%. La crise du Covid a accéléré un mouvement irrémédiable, mais le numéraire résiste. 97% des Suisses disent avoir de l'argent dans leur porte-monnaie ou à la maison et 92% ont une carte de débit. Schizophrène devant l'argent, les Helvètes, Serge Jubin a posé la question à Philippe Schnell, responsable des circulations numéraires à la BNS.
Cela montre qu'en fait que la population suisse apprécie la liberté de choisir entre les différents moyens de paiement. C'est en fonction surtout du montant et du lieu de paiement qu'il est judicieux de disposer de différents moyens de paiement.
Entre amis, on se paye plutôt en espèces et au magasin ou pour des transactions plus importantes, on utilise sa carte.
C'est juste, entre amis, c'est surtout les espèces qu'on utilise et dans les magasins, plutôt la carte de débit.
Le fait que les gens gardent chez eux quelques centaines de francs alors qu'ils ont une carte de crédit, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un problème de confiance quelque part?
Les espèces qui sont à la maison, c'est plutôt pour des situations imprévues qu'on peut avoir ou dans ces situations de crise aussi. En période de crise, par exemple, il pourrait ça survenir qu'on n'arrive plus à utiliser les moyens de paiement pour une raison ou une autre, donc on serait obligé d'avoir des espèces pour faire les paiements.
L'étude montre certes que les jeunes utilisent davantage leurs cartes de crédit et de débit, mais il n'y a pas de fossé générationnel, tout le monde adopte les moyens de paiement numériques.
Vous écoutez RJB, il est midi 27.
Sport. C'est l'avant-dernière qui sonne pour le FC Bienne. La troupe d'Anthony Siroufo prend la route de Zurich ce soir. Elle va en découdre avec la réserve de Grasshopper à 20h dans le championnat de Première Ligue de football. Leader de son groupe, le FCB doit l'emporter pour garder son destin en main lors de l'ultime ronde de la saison. Les Seylandais seront promus en Promotion League s'ils remportent leurs 2 derniers matchs. Toujours en football, la Suisse est presque sûre de son sort en 8e de finale de l'Euro. À 99%, la Nati jouera contre le vainqueur du groupe F, à déterminer entre la France, l'Allemagne ou le Portugal. Le match aura lieu lundi prochain à Bucarest, en Roumanie. Un scénario presque improbable qui comprend par exemple une défaite de l'Espagne face à la Slovaquie et une victoire 4-0 de la France sur le Portugal verrait la Suisse affronter la Belgique ce dimanche à Séville. Autrement dit, la Suisse devrait très certainement hériter d'un très gros morceau. Mais pour l'attaquant de la Nati, Brel Mbolo, un seul but est à atteindre, quel que soit l'adversaire.
Passer le 8e, je crois. C'est un rêve de tout le monde. Je crois pas que de cette équipe, mais de tout un pays. On le sent. C'est une pression, mais c'est une pression positive. Je crois qu'il y a pire dans ce monde. Et on le prend avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de responsabilité. Et on doit travailler. C'est le travail. Après, il y a 2 équipes qui rêvent, qui ont but. Et la meilleure équipe gagnera, j'espère.
Cet après-midi, c'est d'abord l'Espagne qui va jouer sa survie dans la compétition. Dès 18h, la Roja affronte la Slovaquie dans un match qu'elle ne doit absolument pas perdre sous peine d'être éliminée. La Suède, déjà qualifiée, attend la Pologne. Les Polonais sont aussi obligés de s'imposer pour continuer la compétition. Le match phare de cette dernière journée des phases de poule verra la même affiche que la finale de l'Euro 2016. La France affronte le Portugal à 21h à Budapest. Les Lusitaniens ne doivent pas perdre pour décrocher leur ticket, alors que les Français, déjà qualifiés, visent la première place du groupe. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, l'équipe de France ne va pas tout faire pour éliminer le Portugal. On écoute Didier Deschamps.
Sincèrement, non. Les intentions qui sont les nôtres et l'ambition qui est la nôtre, c'est d'obtenir le meilleur résultat possible avec des conséquences ou une incidence, évidemment, sur le classement dans le groupe et... accessoirement sur l'adversaire de Portugal, mais le fait de déjà penser à nous et l'ambition qui est la nôtre, je vous le répète, c'est jouer ce match-là pour aller chercher le mieux possible.
Dans l'autre match du groupe, l'Allemagne doit valider sa qualification face à la Hongrie avec un nul ou une victoire. Les Suisses regarderont donc avec attention ces 2 affiches qui décideront de son destin. Et pour finir, le numéro 5 mondial sera à l'Open de tennis de Gstaad cet été. Le tournoi annonce ce matin que l'Autrichien Dominic Thiem jouera dans l'Oberland bernois du 17 au 25 juillet. Il tentera de cueillir un deuxième succès après celui de 2015. Je vous souhaite un très bel après-midi.
Et puis tiens, on va poursuivre en musique dans quelques instants avec Dua Lipa et Angèle. Et puis cette météo qui nous accompagne pour ce mercredi avec des nuages qui ont un peu eu tendance à se pousser quand même pour laisser place à un temps assez, voire bien ensoleillé. Des développements de cumulus quand même qui sont possibles sur le Jura avec quelques averses ou orages localement forts qui vont éclater dès le début d'après-midi sur l'arc jurassien tout d'abord pour déborder par endroits jusqu'au Seeland d'ici la fin de journée avec un risque de grêle localement. Attention à ça, risque d'averse et d'orage qui va persister d'ailleurs ce soir et cette nuit. Pour ce qui est des températures, il fera entre 21 et 24 degrés au meilleur de ce jour. Et puis la suite, ce sera avec demain un temps changeant, humide et instable toujours. Un ciel qui va alterner entre belles plages de soleil et périodes plus nuageuses. Quelques averses, parfois orageuses, seront possibles le matin déjà. Puis d'autres averses et orages qui vont éclater pour la seconde partie de journée avant de déborder au pied du massif.